Auditeurs, auditrices de FM+, bonjour pour ce premier sine qua non de l'année 2021. Nous sommes, et oui, toujours en visio avec Simone Clergue. Bonjour Simone.
Bonjour.
Claude Bonnet, bonjour Claude.
Bonjour.
Et nous sommes là pour trois films trouvés sur Arte Vidéo, Claude.
Exactement. On commence par un baiser, s'il vous plaît.
Je voudrais vous laisser un dernier souvenir.
Peut-être qu'il vaut mieux pas.
Il ne s'agissait que d'un tout petit baiser.
Avant qu'un baiser soit donné, on ne peut pas savoir s'il sera petit ou grand.
Je peux t'embrasser.
Alors, c'est un film d'Emmanuel Mouret. Est-ce que tu connais bien Emmanuel Mouret, Glenn ?
Emmanuel Mouret, non, je ne le connais pas bien, mais j'aime beaucoup ce film. Un baiser, s'il vous plaît.
Emmanuel Mouret, rapidement, il est à la fois acteur, réalisateur, scénariste et comédien. Il a 50 ans, il est né à Marseille, donc. Et il a commencé par faire des cours d'art dramatique à Paris. Il a, comme on dit dans le mini, il est monté à Paris. Et ensuite, il a fait la Fémis. Et dans l'option donc réalisation, et son premier film, qui est le film de l'autre, son premier long métrage, pardon, qui est un film de fin d'études, s'appelle Promène-toi donc toute nue, donc qui est un clin d'œil à la pièce de La Biche, Ne te promène pas toute nue. Et ce film l'a tout de suite permis, il a eu un certain succès, il a tout de suite permis de s'enchaîner. Et donc, depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années, il a réalisé en tout une bonne dizaine de films. J'ai choisi ce film, moi, Baiser s'il vous plaît, parmi quatre autres que nous proposait Arte, comme tu disais tout à l'heure, parce que je trouve qu'il est significatif, peut-être un peu plus que les autres, du style de Mouret. Alors, Mouret, c'est... il faut dire d'abord que c'est un admirateur de Romer, de Guitry. Il aime aussi le cinéma burlesque américain et en particulier Buster Keaton. Il aime beaucoup Truffaut et il joue dans pratiquement tous ses films. Je crois qu'il y a que dans les deux derniers qu'il n'a pas de rôle, et souvent le rôle principal d'ailleurs, il faut bien le dire. Il joue le rôle d'un personnage un peu un clown lunaire qui est maladroit mais qui est beau parleur. Et qui a quand même des principes moraux. C'est un peu son originalité. Je trouve décidément, j'arrêtais pas de bafouiller ce matin. Alors ici, ce personnage donc évidemment qui va interpréter. Et pour parler de ce film plus particulièrement, on pourrait dire que c'est une sorte de marivaudage, donc un jeu de l'amour et du hasard du XXIe siècle. Et c'est ce que j'appellerais, moi, une histoire à tiroir. Mais pour le résumer d'une phrase, c'est l'histoire d'un couple, en fait, qui rencontre un autre et qui raconte un autre. C'est, alors, je vais aussi parler quand même des acteurs qui jouent dans ce film et qu'on retrouve aussi beaucoup chez ce réalisateur. Il fait un peu comme Molière, il a une troupe, comme Pagnol a fait aussi, je ne sais pas. Encore un Marseillais. Il joue beaucoup avec les mêmes acteurs, il joue beaucoup avec la même équipe technique également. Alors ici, on retrouve Virginie Ledoyen qui a joué dans son premier film. On trouve Julie Gayet, on trouve Michael Cohen et on trouve Frédéric Bell qui, pratiquement tous, ont joué au moins dans 4 ou 5 de ces films. L'histoire, donc, je vous disais, c'est un couple qui raconte un autre couple et... c'est un entremêlement, je veux dire, c'est un film à tiroir. C'est-à-dire que tous ces personnages se retrouvent tout au long du film avec des flashbacks, des allers-retours, donc qui sont presque incessants, qui sont plus ou moins longs. Il y a cette espèce de va-et-vient. Et ça a l'air peut-être un peu compliqué comme ça quand on le dit, mais quand on voit le film, on n'a aucun problème pour de compréhension. On suit très bien l'histoire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Simone, mais moi, je le vois un peu comme ça.
Oui, en fait, c'est cela. Il dit lui-même que c'est un film de parenthèse. Ce sont des histoires, des récits dans le récit. Et en fait, c'est la rencontre, ça démarre par la rencontre d'Émilie Julie Gayet et de Gabriel Michael Cohen dans un hôtel à Nantes. Tous deux sont en déplacement et ils accrochent bien, quoi. Donc ils passent la soirée ensemble. Au moment de se quitter, donc Gabriel aimerait bien embrasser Émilie, Mais c'est à ce moment-là qu'elle dit qu'elle refuse et qu'elle va raconter quand Gabriel lui demande pourquoi, puisque apparemment il y a quand même une certaine attirance. Et elle dit, on ne sait jamais à quoi un baiser peut conduire. Et c'est à ce moment-là qu'elle raconte l'histoire qui est arrivée à Judith Virginie Ledoyen et qui était mariée à Claudio Stefano Accorso. Le ménage était heureux. Elle avait un très bon ami, Nicolas, qui donc est joué par Emmanuel Mouret. Et voilà, et donc c'est parce que Nicolas a voulu embrasser Virginie qu'après, Judith, qu'après tout s'est un peu déguinglé.
La façon dont ça fonctionne aussi, c'est que ça fonctionne aussi avec, beaucoup avec la voix off, qui est très importante, un peu comme dans les films de la Nouvelle Vague. C'est-à-dire que Émilie raconte à Gabriel, comme tu viens de dire, l'histoire de Judith et de Nicolas, donc qui au départ sont de grands amis et qui vont évoluer évidemment petit à petit à cause de ce fameux baiser que vous décrirez ou vous avez vu déjà dans le film. Donc c'est ce baiser du départ qui est l'élément déclenchant en quelque sorte. Et ensuite tout va s'entremêler, comme je disais tout à l'heure, et ces personnages vont aller venir intervenir dans l'histoire, commenter l'histoire, parce qu'ensuite c'est Nicolas qui va être qui est la voix principale dans ce film et qui lui va raconter justement l'histoire des sentiments de ce personnage qu'il interprète, que t'appelles Mouret, vis-à-vis de Judith, interprétée par Virginie Ledoyen, avec des retours. Et enfin la dernière voix off, c'est celle de Gabriel, donc qui est le personnage donc a rencontré au départ Julie Gaillet au point de départ de l'histoire. C'est Gabriel qui va raconter donc à Émilie comment il a rencontré lui de son côté sa compagne. Donc comme je le disais tout à l'heure, ça a l'air un peu compliqué, mais en voyant le film, ça coule de source, me semble-t-il.
En fait, c'est un chassé-croisé d'un couple à l'autre. Puis les couples se défendent et c'est d'un personnage à un autre. Et bon, c'est vrai qu'on pourrait s'y perdre, mais non, parce qu'on voit tout de suite comment évolue, on les voit donc sur l'écran, comment ils se rencontrent et comment ils évoluent. Bon, c'est sûr que l'hésitation de Nicolas, ce personnage est un peu agaçant, hein, parce que il voudrait, mais il ne veut pas prendre l'initiative, donc c'est un personnage agaçant, un petit peu, voilà, dans ses hésitations.
Mais c'est le personnage qu'on retrouve aussi dans beaucoup de films d'Emmanuel Mouret, hein, donc qui l'interprète. Oui. Il a cet air un peu ahuri, mais en même temps, donc il est beau parleur. Je le qualifierais plutôt de séducteur malgré lui. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Peut-être. En fait, moi, j'avais un a priori contre Emmanuel Mouret et ses films. Et bon, ça a été bien que je vois ce film parce que je reviens un peu sur ce que je pensais de lui. Mais voilà, moi, les personnages hésitants, ça m'agace toujours un peu.
Il y a aussi beaucoup d'humour dans ce film.
Il y a beaucoup d'humour. Il y a surtout un humour décalé. C'est un peu, encore une fois, le principe qui fait fonctionner Mouret. Donc, il y a toujours, à travers les sentiments, si je puis dire, il y a ce personnage maladroit. Il y a beaucoup de quiproquos à cause de ça. Une chose dont on n'a pas parlé encore aussi, c'est la musique. La musique dans tous les films de Mouret. Donc, elle est omniprésente, beaucoup plus que dans les films en général. Et je pense qu'il doit être amateur de musique classique parce que effectivement, il y a beaucoup de musique classique dans ces films. Alors, je suis pas très connaisseur, mais moi, j'ai retrouvé il y a du Schubert, il y a pas mal de Schubert. J'ai trouvé du Tchaïkovski aussi. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore d'autre?
Il y a du Dvorak.
Oui.
Tchaïkovski, il y a Le Lac des Cygnes et Casse-Noisette, mais il dit que la musique permet d'aller dans une humeur, une complexité, et que lui-même a du plaisir en tant que spectateur d'entendre la musique des films. Voilà. Moi, j'ai aimé aussi la photo. Il fait des gros plans de visage qui sont très réussis, me semble. Enfin, que je trouve réussis.
Point de vue technique, bon, c'est quand même très académique. Il n'y a pas vraiment d'innovation. Mais enfin, c'est très bien filmé, c'est très bien joué. Donc, si vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, ça peut donner l'occasion donc, à certains de découvrir. Actuellement, il y a encore pendant pas mal de temps sur Arte Film, on peut voir en replay trois autres films de Mouret, Changement d'adresse, un film de 2005, L'art d'aimer, qui est de 2011, et
Caprice
voilà, de 2015. Pour terminer, peut-être, j'ajouterai qu'il a changé un peu de registre, mais enfin de ton dans ses deux derniers films, qui sont Mademoiselle de Jonquière, qui est sorti en 2018, et Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, qui vient de sortir, qui est sorti en deux confinements, donc il a pas eu beaucoup de temps d'écran, si je puis dire. Il ne joue pas d'ailleurs dans ses films, ses deux derniers films.
Et c'est toujours sur le sentiment amoureux et la vie de couple.
De toute façon, voilà, il y a quand même ces deux thèmes qui sont toujours présents dans ces deux derniers films comme dans les autres.
Bien, bah écoutez, on s'arrête là pour ce premier film, Un baiser s'il vous plaît d'Emmanuel Mouret. On passe à un deuxième film, lui aussi de 2007, Caramel. On écoute tout de suite un son de Caramel.
نسرين بليز حبيبتي انتبه على المحل انا رايحه نص ساعه على الاقل
موجوده مازال
موجودين
مش افضل لو بتحطي السنتور
اذا ما حطيته شو بيصير.
Alors, Caramel, on est là dans une ambiance libanaise. Nous sommes à Beyrouth, me semble-t-il.
C'est un film de Nadine Labaki, qui est une réalisatrice libanaise. Et nous l'aimons bien. Nous avons eu l'occasion de discuter en réunion de ce film lorsqu'il est sorti, ainsi que des suivants. Et maintenant, on va où ? Qui a eu une mention spéciale du jury œcuménique en 2011. Puis Capharnaüm, qui a eu trois prix au Festival de Cannes en 2018, dont celui du jury œcuménique. Alors en fait, c'est son premier long métrage qu'elle a pu réaliser après avoir été acceptée en résidence du Festival de Cannes, qui accueille chaque année 6 réalisateurs étrangers pour les aider à développer leur projet au cours de 2 sessions de 4 mois et demi. Caramel a été présenté et obtenu un grand succès à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2007. Ensuite, il a eu beaucoup de succès auprès du public. Dans ce film, Nadine Labaki interprète le rôle principal de Layal et elle a choisi les autres actrices parmi des comédiens amateurs, actrices et acteurs d'ailleurs, et parmi ses amis. Ou alors, elle en a rencontré certains, comme le personnage de Lily. Voilà. Alors, Caramel se déroule à Beyrouth, donc dans un salon de beauté si belle. Et le caramel, en fait, est utilisé pour l'épilation. Et là, on va rencontrer principalement 5 femmes. Donc, on commence par Layal, interprétée par Nadine Labaki, qui est la coiffeuse, et elle est la maîtresse d'un homme marié. Leur rencontre se déroule suivant toujours le même processus. 3 coups de klaxon, un coup de téléphone, et elle part en courant vers sa voiture pour le rejoindre. Mais cette situation commence à lui peser, car elle sent que cet homme ne va pas divorcer. Elle en est d'autant plus convaincue lorsqu'elle a l'occasion de voir une photo de l'épouse et de leur petit garçon. La scène décisive sera celle où elle va préparer une super fête d'anniversaire. Cette scène est importante pour connaître la situation des femmes au Liban, car lorsque elle va vouloir retenir une chambre dans un hôtel, on va chaque fois lui demander qu'elle porte l'accord de son mari. ce qu'évidemment elle ne peut pas faire, et elle aboutira finalement dans un hôtel sordide où elle passera la journée à nettoyer et à embellir la chambre, et bien entendu lui ne viendra pas au dernier moment, et ce sont ses amis à elle qui viendront la consoler. Dans ce salon, tu veux ajouter quelque chose, Claude, sur ce personnage, ou on passera après aux autres au fur et à mesure?
Oui, c'est évidemment le personnage central de ce film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à la fois, c'est elle la patronne évidemment du salon, mais c'est peut-être aussi la personne la plus vulnérable de fait de sa situation. Et dans les allers-retours qu'il y a au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on la sent donc au départ effectivement très attachée à cet homme marié donc qu'elle fréquente, mais on la sent aussi petit à petit se détacher, la sent évoluer, et comme tu disais effectivement il y a un moment crucial, c'est quand elle rencontre sa femme qui vient se faire épiler ou je sais pas trop quoi dans ce salon de beauté.
Oui. Voilà, le deuxième personnage, ce sont les deux employés, donc sont Nisrin, qui va bientôt se marier, mais problème, car elle n'est plus vierge, et là aussi, on voit la toute puissance masculine, car elle devra faire donc un séjour en clinique, et sous un faux nom. D'ailleurs, le nom qu'elle prend est assez humoristique. Voilà. La deuxième employée, c'est Rima, à l'allure de garçon manqué, qui est attirée par une splendide cliente qui revient à plusieurs reprises dans le salon. Alors, c'est un garçon manqué, mais au moment du mariage de Nisrin, on la verra très féminine, et c'est elle qui chantera la chanson d'amour au marié. On revient un peu sur cette cliente. La cliente qui est vraiment une femme magnifique, et l'idéal féminin, paraît-il, pour les hommes, mais quand même aussi pour les femmes. Et donc, cette cliente a hésité longtemps avant de se faire couper les cheveux parce qu'elle craignait de déplaire à son mari. Là aussi, l'influence des hommes sur l'attitude des femmes. Un autre personnage, c'est Jamal. Alors, Jamal est une cliente assidue, obsédée par son apparence. Elle court les castings, elle est séparée de son mari et a deux enfants adolescents à sa charge. Mais il est essentiel pour elle de paraître plus jeune, et elle use d'artifices assez misérables, il me semble, enfin à mon avis. Voilà, je ne sais pas comment vous trouvez ce personnage.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce microcosme qui est le reflet, je pense, d'un certain milieu, d'une certaine classe de la société libanaise. Et il y a quand même aussi, je crois, j'ai trouvé beaucoup d'humour et d'autodérision dans ce film. Il y a quelques scènes. Tout à l'heure, tu faisais allusion au mariage, à la réparation du mariage. On est effectivement quand même dans l'anthropologie. Il y a une scène qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'est la bénédiction du salon. Je ne sais pas si c'est une tradition, mais enfin, il y a les religieux donc, qui viennent de bénir ce salon, c'est quand même assez inattendu. Ce qui est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est cette espèce de ronde entre ces personnages qui vont, qui viennent. On peut d'ailleurs le rapprocher du film précédent sur ce point, il me semble. Et c'est toujours un va-et-vient incessant. Ça va très très vite. Il y a un rythme qui est très 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 soutenu, je trouve. Et on s'ennuie pas une seconde. On passe d'une histoire. Ça se télescope. Alors, même si le film se passe majoritairement dans ce salon de coiffure, enfin de beauté, il y a aussi des quelques extérieurs. Et il y a quelques scènes chez Tata Rosa, qui est aussi avec Lily, donc un personnage dont on parle beaucoup et qui revient régulièrement dans le film, qui nous donne aussi un autre aspect de cette civilisation libanaise, avec cet homme charmant d'un certain âge, qui est amoureux de Tata Rose, donc qui vient sous tous les prétextes se faire allonger un pantalon, ranger ceci, ranger cela. Et ouais. Bon, malheureusement, comme on verra, c'est une histoire grâce ou à cause de cette Lily, donc qui est un personnage un peu bizarre, un peu. C'est un peu.
Un peu folle.
Il est un peu folle dingue, on dirait, il me semble. Et donc, comme je dis, voilà, on ne sait pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien, mais toujours est-il que c'est une histoire d'amour, là aussi, qui se termine mal.
Oui, j'allais revenir justement sur ce personnage à la suite des autres. Rose, donc, tante Rose, c'est leur amie couturière qui raccommode leur blouse. Elle n'est plus toute jeune, mais elle voudrait croire encore au bonheur avec un homme, lorsque Charles, un monsieur très distingué, lui fait une cour discrète. Mais hélas, Rose est liée à sa sœur aînée, dont elle s'occupe, Lily, à qui il manque un petit grain. Donc Lily ramasse les papiers dans la rue qu'elle prend pour des lettres d'amour de son fiancé. Et cela nous donne l'occasion de faire la connaissance du jeune policier, Youssef, amoureux de Layal. C'est le seul homme qui va rentrer dans le salon de beauté, et quand il y rentrera, il en sortira après tout changé. Voilà, il y a une jolie scène, moi que j'ai beaucoup aimée. Il est installé au café et il voit en face dans le salon Layal qui téléphone, et il s'imagine être au bout du fil et il lui donne une réplique tout à fait charmante, tout à fait amoureuse, voilà. Et c'est lui qui aidera le fiancé de Nisrine à se sortir d'une situation difficile. Là aussi, on met l'accent sur cette situation particulière où un homme et une femme ne peuvent pas rester à discuter dans une voiture sans l'intervention tout de suite de la police. Et justement, il y a des scènes humoristiques. Il y a des scènes humoristiques. Les PV de Youssef qui s'entassent dans la boîte à gants de la voiture de Layal et qui finissent dans le sac plastique de Lily. Et justement, à un moment, il essaie de les récupérer alors que Lily s'accroche à son sac. Et les quatre femmes du salon regardent la scène en se moquant. Je ne sais pas si elles sont toutes là sur le trottoir. Et elles se moquent du policier qui essaie de récupérer ses PV. Et PV qu'il met sur la voiture de Layal, qui s'obstine à se garer là où c'est interdit. Donc, il lui met des PV simplement, je pense, pour se faire remarquer et pour se rappeler à son bon souvenir. En résumé, je trouve que c'est une histoire qui finit à peu près bien, pour certaines, mais Nadine Labaki évoque les contraintes de la société libanaise sur les femmes en particulier. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose.
Claude,
tu as dit l'essentiel.
Simone a tout dit, finalement.
Voilà.
Bien, en tout cas, c'était Caramel de Nadine Labaki. C'était le deuxième choix pour cette émission de Sine Qua Non. Le troisième choix est un film de 1937, Une étoile est née. Alors, Une étoile est née, Claude, de 1937, un film américain de Willman. Alors, pourquoi lui? Pourquoi ce choix?
Parce que c'est un film qui a fait des petits, si je puis dire. C'est la première version de ce film. Donc, c'est le film original qui est inspiré de la vie d'un acteur américain qui s'appelait John Gilbert, qui était un des acteurs américains les plus connus à l'époque du cinéma muet, et qui... sans faire de jeu de mots, n'a pas fait sa mue, puisque il a été complètement, il est complètement sorti des écrans à partir du moment où le cinéma est devenu parlant. Il était déjà alcoolique, son état n'a fait qu'empirer, et il est mort donc relativement jeune. Ce film aussi a été une source, en partie, une source d'inspiration pour The Artist, le film avec Dujardin, qui a été un grand succès aux États-Unis il y a quelques années, comme vous savez. Alors, quelques mots quand même sur William Wellman. C'est un réalisateur américain relativement peu connu, puisqu'il est quand même très, très ancien. Et malgré le nombre de films qu'il a réalisés, donc il y a beaucoup de déchets dans ses films. Ici, donc, pour en revenir à ce film, donc c'est le premier, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a quatre films qui vont suivre. Il y en a un donc, qui n'a pas le même nom. Je ne sais pas où je l'ai mis, je l'ai oublié. Mais en 1954, George Cukor donc a fait Une étoile est née avec Judy Garland et James Mason. C'est le film peut-être le plus connu parce que c'est une comédie musicale. Rebelote en 1976 avec Frank Pearson. Autre comédie musicale avec Barbara Streisand, Christopherson, Marlon Brando et Elvis Presley. Quel casting, comme vous pouvez voir. Et enfin, tout récemment, en 2018, Bradley Cooper a réalisé donc ce Une étoile est née, nouvelle version, avec lui-même en rôle principal et la chanteuse et actrice Lady Gaga. Ce film, c'est une histoire qui est maintenant classique, mais qui était nouvelle à l'époque. C'est un peu ça qui fait que je l'ai choisi aussi. C'est l'histoire classique de la jeune fille paysanne dans le fin fond des États-Unis, qui va au cinéma, qui aime chanter, qui rêve d'aller à Hollywood et qui réalise son rêve, donc, grâce un acteur connu à l'époque qui ressemblait à Jean Gilbert, donc qui vraiment a sombré dans l'alcoolisme. Autrement dit, c'est la nouvelle vedette donc qui a supplanté l'ancien dans le cœur des Américains. Alors deux acteurs trois acteurs plutôt principaux qui ne diront peut-être pas grand-chose à nos auditeurs. Il y a tout d'abord Janet Gaynor qui joue le rôle principal de cette jeune femme qui devient actrice. Frédéric March, qui est quand même plus connu, qui joue Norman Mann, donc son mentor en quelque sorte. Frédéric March, on l'a vu dans beaucoup, beaucoup de films, et notamment dans pas mal de films d'Hitchcock. Et enfin, il y a Adolphe Manjou, qui joue le producteur du film. Et Adolphe Manjou, c'est un acteur donc, qui a aussi beaucoup, beaucoup tourné, donc dont on se souvient quand même du nom. Donc c'est l'histoire donc de un peu du rêve américain en version cinématographique. Donc cette personne donc fait des petits boulots, elle arrive tout à fait par hasard à rencontrer ce Norman Maine qui est une grande vedette comme je vous disais sur le déclin. Elle change de nom, elle fait un premier film qui va être un succès surtout pour elle. Elle se marie avec cet acteur. Et après une lune de miel, il fait scandale, le couple commence à se déliter et cette jeune actrice, donc Vicki Lester, remporte l'Oscar de meilleure actrice. Et à ce moment-là, donc Norman Maine arrive et fait un scandale. Il arrive évidemment, il est complètement sous et c'est la fin, c'est la chute. Il se retire et finalement, il finit par se suicider. Donc c'est à la fois un film sur le rêve hollywoodien et autrement dit, le côté blanc et le côté noir. Et c'est aussi en même temps, évidemment, une peinture de ce cinéma, enfin de la pratique du cinéma de l'époque, avec la mainmise, comme on le verra, du personnage interprété par Adolphe Manjou, donc qui est un producteur, et qui a évidemment fait droit presque de vie et de mort, si je puis dire, sur ces acteurs.
Simone, un complément?
C'est un film plein de bons sentiments. C'est justement la jeune actrice qui est propulsée sur le devant de la scène par l'acteur qui décline. Et donc, à la fin, il se suicidera pour ne pas gêner la carrière de sa femme. Et elle continuera en mémoire de celui qui l'a faite, ce qu'elle est. Voilà. Mais simplement, j'ai eu la surprise de découvrir Andy Devine, qui joue le copain de Vicky à l'hôtel, à ses tout débuts, et qui joue, je me demandais où je l'avais vu. En fait, c'est bien plus tard dans L'homme qui tua la Liberty Valance, en 1962, donc presque 30 ans après. Voilà.
Il joue aussi dans d'autres films de John Ford, des acteurs fréquents chez John Ford.
Oui, très caractéristique au point de vue physique.
Oui.
Voilà.
Je crains, chers amis, que nous devons nous arrêter là. Simone Clergue, merci encore pour ces trois films visionnés. Claude Bonnet, merci pour ces choix de trois films qu'on peut de toute façon voir quasiment presque jusqu'à juin 2021.
De rares films, Henri.
Ouais. Art et film, exactement. Eh bien, on se voit le mois prochain, en février.
Bien sûr, rendez-vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
À bientôt.